Bonjour à tous et bienvenue à votre RC Mag, le libre cours de Radio Courtoisie. Aujourd'hui, nous recevons Kyria Gay, agricultrice, restauratrice, qui a monté les champs de Gaïa et la table de Gaïa à Montjoie, en Causeran, en Ariège. Bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour, et je suis avec mon mari aussi, je ne suis pas toute seule, on est à deux avec ce projet. Et oui, effectivement, on a fait les champs de Gaïa sur la partie agricole et la table de Gaïa pour la partie restauration.
Et on va parler de votre mari aussi, d'ailleurs. Pouvez-vous nous présenter justement la table de Gaïa en quelques mots, comment ce projet unique en France qui allie ferme et restaurant, en circuit ultra court est-il né en 2018 après vos épreuves initiales?
Alors, en quelques mots, ça va être très compliqué. On pourrait y passer des heures, mais je vais essayer d'écourter.
Ah non, on n'a que 30 minutes.
C'est pour ça, je vais aller droit au but. Donc, nous, on avait une folle envie de changer le monde. Et donc, on s'est dit qu'on allait devenir paysan parce qu'on s'est dit que c'était le premier maillon de la chaîne de nos sociétés, de nourrir les êtres humains, que tout le monde en avait besoin. Et en fait, très rapidement, on s'est rendu compte que financièrement, uniquement l'agriculture, on n'allait jamais s'en sortir. Donc, on a eu l'idée folle de faire un restaurant fermier où on pourrait valoriser chacune de nos petites productions parce qu'on voulait vraiment avoir une ferme en circuit fermé. Dans quelque chose de bien concret et de circulaire. Et donc, du coup, on ne voulait pas aller dans une ferme classique où il n'y a qu'une seule production. Donc, dans cette idée de ferme, pour pouvoir valoriser chacune de nos productions, on a décidé de faire un restaurant fermier.
D'accord. Et avec justement votre mari Manu, vous produisez environ 80% des ingrédients servis, dont plus de 5 variétés de viande. Une diversité rare en France, faut quand même le souligner. Et qu'est-ce qui vous a poussé justement à adopter ce modèle de la fourche à la fourchette?
Donc du coup, on a fait notre ferme en fonction de notre restaurant fermier. Au départ, on était producteur de semences et producteur d'agneaux. Quand on a fait le restaurant fermier, du coup, on a voulu rentrer au fond de tous les ingrédients. Et donc là, actuellement, on est à 80% effectivement entre les fruits, les légumes, les 5 viandes différentes, dont du bœuf, du porc, de l'oie fermière, du lapin, de la volaille. On fait aussi nos œufs, notre miel. L'année prochaine, la nouvelle production qui va arriver, c'est les poissons. On a envie aussi de se lancer dans cette aventure-là. Et ensuite, il y a sur les 15% restants, on se fournit chez des producteurs locaux. Il y a que 5% où on est encore chez les GMS, mais on est les grandes et moyennes surfaces, pardon. Chaque année, on va un peu plus vers le local. Et en fait, ce qui nous a vraiment motivé à faire ça, c'est de montrer que c'était possible. Moi, c'est ce que je dis à mes enfants. Je dis que la meilleure éducation, c'est l'exemple. Je montre l'exemple à mes enfants pour qu'ils puissent être bien élevés. Et donc, c'est la même chose pour l'agriculture. Les beaux discours, c'est bien, mais montrer l'exemple, c'est mieux. Donc, ça fait 10 ans maintenant qu'on prouve qu'une autre agriculture est possible, qu'une façon de produire respectueuse de l'environnement, de l'humain et du consommateur est possible. Et donc, c'est pour ça qu'on est allé vraiment au plus profond quoi, de chaque ingrédient.
Bah d'ailleurs, Kyria, vous avez récemment obtenu le titre de maître restaurateur, prouvant que tout est fait maison à partir de produits bruts. Comment avez-vous rebondi après la faillite et transformé ces défis en force pour votre ferme à Montjoie en Causeran?
Eh bien, c'est ça justement, c'est que comme on est loin de tout, il nous fallait une nourriture et des assiettes irréprochables. Donc moi, j'aime à dire qu'on est la gastronomie de demain parce que les gens vont aller petit à petit vers ça et qu'en fait, soit on va sur ce chemin-là ou soit on va perdre notre gastronomie française. Donc à chaque challenge, en fait, on essaye de le voir comme une force, et donc on rebondit, on essaye de faire toujours mieux. Ben, comme vous l'avez dit, on a commencé en fin 2018, donc en fait en 2019 avec le Covid, on a toutes les billes qu'on avait mis dedans, en fait ça a été un gros challenge parce qu'on a pu tout perdre, mais ben on s'est réinventé, on a livré des pizzas, et quand on a pu réouvrir, on s'est remis dans notre cuisine. Moi j'étais pas issue de la restauration au départ, donc en fait c'est en cuisinant que j'ai peaufiné mon style, on va dire, parce que j'ai un style quand même bien à moi, qui est, comme je vous dis, gastronomie fermière. Et du coup, en fait, chaque challenge est une opportunité de grandir et d'évoluer. On a commencé à faire les mariages aussi il y a 5 ans maintenant. Et pareil, la première fois qu'on a fait notre mariage, on n'avait jamais fait de mariage avant. Et donc, on évolue perpétuellement et on perfectionne notre cuisine et notre ferme.
Cher Kyria Gray, juste une petite pause, un petit message pour les auditeurs de Radio Courtoisie.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Comme vous venez de l'entendre, chers auditeurs de Radio Courtoisie, hein, surtout, surtout, n'oubliez pas de vous rendre sur soutenir.rc.fr ou de nous envoyer un chèque au 61 Boulevard Murat, 75016 Paris, car Radio Courtoisie a toujours, toujours besoin de vous. Kyria Gay, dans une vidéo émouvante hein, postée en mai 2025, vous avez lancé un appel de détresse sur les coûts de production. Je vous cite, hein, il est moins cher d'acheter un kilo de viande que de la produire. Comment vivez-vous cette réalité économique au quotidien et comment cela impacte-t-il les agriculteurs français?
Alors effectivement, c'est vrai que je suis aussi très engagée, on n'en a pas encore parlé, mais je suis très engagée dans l'agriculture paysanne et dans
Oui.
l'agriculture française. Et ça a été un peu le coup de trop, parce que le coup de téléphone de trop d'un vendeur de viande qui m'a dit qu'en fait il avait de la viande à 4 euros le kilo, que c'était super et qu'il fallait absolument que j'achète ça pour mon restaurant. Donc je lui ai bien expliqué que ben, nous, on était producteurs et que vendre de la viande à ce prix-là, c'était juste indécent, que
Bien
nous,
sûr.
ça ne coûte même pas nos frais d'abattage et de découpe, donc on n'imagine pas le reste. Là, c'est pareil, ce serait un très grand débat, mais en fait, là, c'est vraiment révélateur de ce qui se passe actuellement en France dans le domaine de l'agriculture, où en fait, on nous oblige toujours à produire plus, à avoir toujours plus de normes et avoir toujours plus une concurrence qui est absolument déloyale. Moi, aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre, bien que quand même je connaisse quelques rouages, mais comment une viande qui vient de l'autre bout du monde, ne serait-ce qu'avec les frais de transport, peut être à ce point-là aussi peu chère par rapport à une viande de chez nous.
Oui, comme
Où
vous
on
le dites
nous
souvent
exige...
d'ailleurs. Ouais.
Comment?
Comme vous le dites souvent sur votre site, sur YouTube, pardon, et sur les réseaux sociaux.
Exactement, exactement. J'essaye de démêler un peu le vrai du faux et de comprendre comment ça peut être possible. Puis bon, après, on le sait, c'est parce que c'est une agriculture industrialisée, une agriculture où il n'y a ni de respect ni de l'animal, ni de l'environnement et ni de l'être humain. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si on achète un produit agricole pas cher, c'est que il y a un autre prix derrière, qu'il soit humain ou écologique, qui est là.
Et vous avez choisi d'ailleurs de vous passer des subventions agricoles, hein, un choix radical. Quelle leçon tirez-vous de cette autonomie et pensez-vous que c'est un modèle viable pour d'autres paysans en 2026?
Alors, c'est pas moi, consciemment, hein, qui m'ai vu me passer des subventions. C'est plutôt l'État qui a décidé que les petites fermes n'auraient pas de subventions. Comme nous, on est sur une ferme sur une petite surface, on est à 12 hectares de SAU, surface agricole utile. On est vraiment dans une ferme qu'on dirait de petite à l'échelle nationale. Et en fait, c'est dans cet esprit-là, qu'on a aussi ouvert le restaurant fermier, en fait, pour pouvoir s'en sortir, parce que clairement, les crédits sont quand même les mêmes que dans une grosse ferme, bien que peut-être un peu plus modeste, mais tout aussi étrinquant, sauf qu'on n'a pas cette sécurité-là, des primes. Donc, on a décidé, ben, de faire le restaurant fermier, qui, en fait, pour nous, notre subvention, notre repas, clairement, c'est le restaurant fermier qui prend la relève, quoi. Et donc, moi, effectivement, par rapport à la PAC, je commence à devenir de plus en plus radicale parce que je me rends compte que ces subventions-là, donc pour nos auditeurs qui connaissent pas, en fait, ce sont des subventions de l'Europe qui nous permet d'avoir un tarif à l'hectare pour les agriculteurs, mais c'est pas sous couvert de nous aider, en fait, elles nous emprisonnent parce que déjà, cette PAC, elle permet au lieu de consolider les liens entre les paysans, en fait, ça crée de la discorde parce que dès qu'il y a une terre qui se libère. Il y a plein d'agriculteurs qui veulent récupérer cette terre pour avoir plus de subventions, bien que ce soit un piège, parce que plus on a de terres, plus on a certes de subventions, mais plus aussi on a de charges, plus on a besoin de tracteurs, plus on a besoin de main-d'œuvre. Et en fait, on arrive dans un cercle infini et dans un engrenage où en fait, plus personne n'est respecté dans cette façon de produire et de voir
Oui, c'est
l'agriculture.
clairement ça. Oui.
Ouais, c'est ça. Et encore, il y a aussi le fait, ça nous, donc du, déjà, ça divise le monde paysan, malheureusement. Et puis, ça nous maintient enchaînés, en fait, parce que ils peuvent à tout moment nous couper la PAC si on n'est pas d'accord avec eux. Donc, moi, ce qui est bien, c'est que j'ai ma parole qui est absolument libre, parce que le jour où ils me coupent les subventions, je vais être honnête avec vous, on touche 5000 euros de PAC. Ce n'est pas ça qui va faire que, qui va changer notre face du monde. Donc, en fait, le jour où ils nous coupent les subventions, ben, vraiment, je m'en fiche, parce que moi, les personnes qui me font vivre aujourd'hui, c'est ma clientèle, c'est toutes les personnes qui nous soutiennent, c'est absolument pas les subventions. Donc, oui, j'appelle tous les agriculteurs à enlever leur chaîne des subventions, bien que ce soit très compliqué, mais peut-être en réfléchissant, peut-être à faire moins mais mieux et en faisant plus de la vente directe. Mais là, du coup, c'est là où le consommateur est appelé aussi à qu'on puisse en fait remettre du lien de confiance entre l'agriculteur et le consommateur.
Et récemment, vous avez renouvelé vos vœux hein, avec votre mari Manu. Après 10 ans d'épreuves, comment ce partenariat personnel influence-t-il votre résilience professionnelle face aux crises agricoles ?
Mais vous savez tout !
Bah écoutez, j'ai quand même, j'invite des personnes que je suis quand même, c'est un minimum de connaître son invité, il me semble.
Oui, effectivement, ça fait 10 ans, mais en fait... Très rapidement, quand on s'est rencontrés, on a eu ce projet fou. Et donc, du coup, on a décidé de se marier pour éviter de se séparer à la moindre petite secousse, on va dire. Bien qu'on a eu plutôt des tremblements de terre que des secousses. Mais effectivement, ce mariage a permis de tisser nos liens. Et puis, je ne vais pas vous le cacher, on a failli divorcer 1000 fois, 10 000 fois même peut-être, tellement c'était difficile. Là, c'est pareil, on n'a pas vraiment le temps, mais on a vécu des moments très difficiles. Il faut savoir que quand on s'est installé, on avait que 3000 euros en poche. Lui en avait 2000 et moi j'en avais 1000. Autant dire que je ne l'ai pas choisi pour son argent.
Bien sûr.
Mais en vérité, avec le recul, je vois que ça a plutôt. Toutes ces épreuves-là, bien que ce fût très difficile hein, au moment, et je pèse mes mots, mais en fait, ça a renforcé nos liens. Et maintenant. Quand on a une petite épreuve, au final, on en rigole et on se dit finalement c'est pas grand chose à côté de tout ce qu'on a vécu. Et donc ces épreuves-là, elles ont renforcé notre couple, mais aussi notre foi et notre foi a renforcé aussi notre couple et vice versa.
Donc relativiser. Ouais.
C'est ça. Et donc du coup effectivement pour nos 10 ans, on va renouveler nos vœux
pour
être sûr qu'on a envie de continuer ensemble.
En Ariège, des tensions ont éclaté en 2025 avec les autorités autour de l'abattage de bêtes saines menant à des affrontements avec les CRS. Pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé et pourquoi vous avez, vous voyez plutôt, Caria, cela avec comme une question de souveraineté alimentaire nationale ?
Alors déjà, quand il y a eu cet appel en fait de cet éleveur de venir le soutenir, pour moi c'était inconcevable de ne pas y aller parce que j'étais à peine à 1 heure de route de chez lui et que en plus sur les réseaux sociaux je suis quand même très engagée et j'amène à de la solidarité paysanne, à de la solidarité et à créer du lien aussi avec le consommateur pardon. Mm-hmm. Donc c'était inconcevable pour moi de ne pas y aller. Surtout que j'avais déjà parlé de la DNC, j'ai été une des premières à parler de la DNC parce qu'il y avait déjà eu des abattages dans le Doubs notamment par rapport à ça. Et en fait, oui, cette DNC, pour moi, elle est révélatrice du monde agricole qui existe aujourd'hui. Pourquoi je dis ça ? Parce que tout simplement, en fait, c'est juste révélateur d'un gros mal-être dans le monde agricole qui est que, en fait, on a plus de pouvoir sur nos propres troupeaux. Sur nos propres cultures, sur nos propres envies, parce que c'est pareil, hein, moi, en tant que restauratrice, j'ai eu des bâtons dans les roues, mais continuellement par toutes les instances. Et là, moi, c'est juste mon exemple, mais des exemples d'autres agriculteurs, c'est pareil. Dès qu'on essaye de faire différemment, on nous met des bâtons dans les roues. Et la PAC aussi aide à ça, à faire en sorte que tout le monde fasse la même chose. Et sans, en fait, qu'il y ait de possibilités de souveraineté, effectivement. Et là, ça touche totalement la souveraineté alimentaire, déjà parce qu'on a abattu des vaches saines qui auraient pu être mangées. Moi, personnellement, j'ai vécu dans une famille très pauvre. Mm-hmm. Donc, moi, voir des tonnes et des tonnes de viande brûlées purement et simplement, c'est juste impossible pour moi.
Merci.
Et en plus, j'ai des origines amérindiennes. Donc, pour moi, l'animal a vraiment quelque chose de sacré. La tuer, juste des vaches pour les tuer, c'est absolument impossible. Dans ma conception de la vie, c'est absolument impossible. Et ensuite, sur la souveraineté alimentaire, on a complètement tué des troupeaux entiers avec une génétique absolument incroyable. On a volé l'outil de travail d'un paysan. Et en fait, ça continue et ça continuera. Là, on est en train de parler de la peste porcine, on est en train de parler de la grippe aviaire. En fait, chaque troupeau a son lot de problématiques. Et pour moi, la DNC, en fait, ça a été vraiment le déclencheur et le révélateur, au final, de cette paysannerie qui est à bout de souffle et qui est toujours pris en otage par des monarques, j'ai envie de dire, qui en fait sont complètement hors sol, déconnectés de ce qu'on vit et qui prennent des décisions qui n'ont aucun sens.
Tout à fait. Sur les réseaux sociaux et dans vos entretiens, hein, vous parlez d'une agriculture durable et politique. Je vais vous citer, hein, aller de la graine à l'assiette, c'est politique, hein, comme vous avez dit. Comment résistez-vous au système qui pousse à la spécialisation et aux importations ?
Alors moi, je prône vraiment l'agroécologie. On pense à tort... Comment ?
Oui, je dis oui.
Moi, c'est vraiment l'agroécologie, mon fer de lance. Bien sûr, des fermes petites et résilientes. Après, quand je dis petite, c'est pas forcément de 1 hectare ou de 12 hectares. Ça peut même aller jusqu'à 100 et 200 hectares. Aujourd'hui, 100 et 200 hectares, ça reste une petite ferme. Mais en tout cas, effectivement, pour moi, il y a que la polyculture élevage qui pourra sauver la paysannerie, l'agriculture même, et en fait sortir de nos chaînes de l'agro-industrie, quoi. Pour moi, la révolution, elle se passera aussi dans les assiettes, parce que autant l'agriculteur a sa responsabilité, mais autant le consommateur aussi a sa responsabilité. Moi, je le prône et je le redis, la révolution se passera dans les cuisines, intimement, avec chaque personne qui prend conscience de ce qu'elle a envie de manger. Pour moi, mais c'est même pas pour moi, c'est une certitude. Aujourd'hui, on a la possibilité de voter 3 fois par jour en mangeant et en sachant quel modèle économique, agroécologique et mondial on a envie de soutenir. Est-ce qu'on a envie de soutenir une agriculture mortifère qui est en train de tuer l'humain, le végétal, l'animal et la terre entière, ou est-ce qu'on a envie de soutenir une agriculture vivrière, souveraine, humaine, avec le bien-être animal et en pensant aussi à sa santé.
C'est voilà. Très et important donc, de le souligner.
C'est ça. Et du coup, en fait, je parle autant aux agriculteurs en disant essayez de trouver des solutions. Après, sans jamais culpabiliser, parce que je sais combien c'est difficile, combien les chaînes et les rouages ont été bien ficelés pour nous ficeler, justement, pour nous enchaîner. Mais voilà, il y a toujours des semblants de solutions, des possibilités, en tout cas, de changer un petit peu notre façon de vendre, notre façon de produire. Et pareil, au niveau du consommateur, essayer de soutenir les paysans en allant les voir, en leur posant des questions, en étant bienveillant et en remettant du lien, en fait, entre nos assiettes, notre nature, finalement, même primordiale, parce qu'on est tous, on a tous du sang de paysan dans les veines et on fait tous partie de cette planète Terre et on mange tous grâce à la Terre. Bah donc, oui. En fait, c'est vraiment du sens et du lien qu'il faut remettre au cœur de nos vies.
Vous avez lancé d'ailleurs un live YouTube hein, le 13 janvier, pour être précis, 2026, sur le Morisco hein, et la souveraineté alimentaire. Quelles révélations clés avez-vous partagées et comment cela s'inscrit-il dans les débats actuels sur l'agriculture française ?
Alors oui, effectivement, je faisais beaucoup de toutes petites vidéos et j'ai vu que les gens avaient besoin d'avoir plus de renseignements.
De partager.
Donc j'ai décidé de lancer des lives, des directs et en fait, je vais continuer. Essayer au moins une fois par mois, voire une fois toutes les 2 semaines. Et la première, elle était importante pour moi de parler de Morisco. Et en fait, comme je le disais tout à l'heure, parce que Morisco, ça a révélé la problématique profonde par rapport à notre souveraineté alimentaire. Là, je suis restée quand même sur la DNC, sur les vaches, sur comment ça s'était passé. Mais en fait, c'est une mise en abîme totale de ce qui se passe actuellement dans notre monde agricole. Et ça peut être reporté sur chaque production, finalement. Ça pourrait même être reporté sur nos amis pêcheurs, sur nos amis vignerons, parce que le système est toujours le même. Ils nous font des crises qui, au final, n'existent pas dans la réalité. Et ensuite, nous enchaînent et nous obligent et nous contraignent à leurs agissements sans, en fait, pouvoir dévier. Là, nous, maintenant, je l'ai dit, hein, que nous, maintenant, on refusait la vaccination.
Oui.
Je ne vous raconte pas la croix et la bannière pour juste avoir envie d'avoir mes vaches qui fassent une immunité naturelle. Et ça, c'est en fait pour tout et partout. Donc, en fait, c'est juste une mise en abîme, Mauriscou, je pense, de tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le monde agricole.
En tant qu'agricultrice et restauratrice engagée, comment percevez-vous les menaces contre les paysans qui s'expriment publiquement, hein, comme vous le dénoncez, hein, il me semble que vous avez dit « ils », c'est pas « il me semble hein, », ils nous menacent pour nous faire taire, mais les agriculteurs n'ont plus rien à perdre.
Ben moi, justement, je vois… Alors, je suis résolument optimiste. J'ai envie de garder mon optimisme, ma joie de vivre, parce que je sais que ça, c'est la chose qui les embête le plus. Et j'ai envie de dire aussi, pour votre révolution personnelle, continuez à sourire et à être heureux, parce que c'est la seule chose qu'ils ne peuvent pas encore nous prendre. Et en fait, ces menaces-là, pour moi, déjà… Elle montre finalement qu'ils ont peur, que leur narratif est en train de tomber. D'ailleurs, j'ai envie de parler aussi des fake news qu'ils ont essayé de faire taire ma parole en disant et de me décrédibiliser en disant que tout ce que je disais c'était des fake news. Et en fait, je les remercie parce que déjà ils me font de la pub, merci beaucoup. Mais en plus, ça prouve en fait que leur narratif est en train de tomber, que les gens sont en train de s'informer autrement et que les gens en fait ont plus du tout confiance en nos instances politiques. Donc, en fait, moi, j'ai envie de le voir comme un espoir et d'essayer de nous faire taire. De toute façon, comme je dis, moi, hein, ils vont m'enlever quoi? Ils vont m'enlever le restaurant. De toute façon, j'ai failli le perdre 1000 fois. J'ai failli le perdre avec le Covid. J'ai failli le perdre avec des normes absolument absurdes. J'ai failli le perdre parce que financièrement, c'était super dur. Je veux dire, à un moment donné, mais qu'ils me le prennent, c'est pas grave. J'ai vraiment plus rien à perdre. Tant que ma parole… Et écoutez, ou même si elle n'était pas écoutée, je le dirais quand même, tant que mon esprit est libre, je resterai libre. Et ce n'est pas parce qu'ils vont nous menacer de quoi que ce soit qu'ils vont réussir à quelque chose. Parce que là, on en est à un point où, en fait, on n'a plus rien à perdre. Les agriculteurs, aujourd'hui, n'ont plus rien à perdre. Donc, ils peuvent tenter, essayer, mais à un moment donné, ça commence à être trop gros.
Bah oui. Et bon, pour rester dans le côté optimiste, quels sont vos projets pour la table de Gaïa en 2026, parce qu'il nous reste malheureusement à peine 5 minutes, et comment encouragez-vous les consommateurs à soutenir les circuits courts comme le vôtre? Et puis j'en profite aussi pour vous demander, voilà, pour nos auditeurs, un peu, juste un petit message face aux crises agricoles actuelles. Hein, quelle est la clé pour préserver une France rurale et souveraine?
Alors, nous, pour les nouveautés 2026 sur la table de Gaïa, là, on est en train d'essayer déjà de survivre, parce qu'entre la révolution qui est en train de se faire et le restaurant et la ferme, bon, voilà, déjà, on va réussir à vous recevoir et c'est déjà énorme. Il faut réserver à l'avance si jamais vous avez envie de venir au restaurant. Les horaires d'ouverture, c'est toujours du vendredi soir, samedi midi et soir et dimanche midi parce que tout le reste de l'année, enfin tout le reste de la semaine, on est sur la ferme.
Je me rappelle ensuite, aussi, je vous coupe, excusez-moi, je rappelle aussi aux auditeurs qu'ils peuvent se rendre sur le site Les Champs de Gaïa.
Mais... Oui, tout à fait, leschampsdegaïa.com et puis pareil, si jamais vous voulez visiter la ferme, il y a aussi des journées visite à la ferme et après on mange tous ensemble pour en fait parler de tout ça et pouvoir trouver des solutions ensemble et surtout s'il y a des gens qui ont envie de s'installer, allez-y, c'est d'ailleurs une de mes premières solutions. Pour moi, les solutions déjà assez gouvernementales où les auditeurs ne pourront pas faire grand-chose, mais j'ai envie de dire, il faudrait qu'il y ait des millions de petites fermes qui voient le jour, quoi, et qui puissent exploser un peu partout en France. Ça, pour moi, c'est vraiment ça qui va faire qu'on aura la souveraineté alimentaire. Parfois, je m'amuse à dire, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent « Oui, mais avec ton système, là, on ne pourra jamais nourrir le monde. » Mais en fait, je ne me prétends pas nourrir le monde, mais mon territoire, et c'est déjà énorme. Donc, plein de petites fermes partout. Et pour que ça fonctionne, en fait, c'est là où les auditeurs, on a besoin de vous, le consommateur, parce que en fait, à partir du moment où vous allez aller de plus en plus sur les fermes, que la demande va exploser, eh bien, en fait, forcément, les gens vont pouvoir s'installer. Parce que là, et tu vois, je reprends le point de il faut qu'il y ait de nouveau cette confiance qui soit établie entre le consommateur et le producteur. Parce qu'en fait, c'est que comme ça qu'on y arrivera ensemble. Même moi, par exemple, quand j'ai monté le restaurant fermier, si je n'ai pas de clients, en fait, je ne peux pas. Mon amie maraîchère, c'est pareil. Elle fait de la vente directe. Elle a du mal à trouver la clientèle. Comment c'est possible aujourd'hui en 2026 d'avoir du mal quand on propose des légumes de qualité au même prix qu'en plus au supermarché? On a du mal à vendre. C'est pas possible. Et là, c'est vraiment au consommateur de s'autonomiser. Je ne dis pas que c'est facile, mais rien n'est facile. Tout demande un effort pour avoir un petit peu de fierté en nous. Pareil, enfin, moi, je suis pas donneuse de leçons, hein. J'essaye vraiment de montrer l'exemple, hein.
Bon, on peut dire que ce n'est pas que dans un sens, hein.
Voilà, c'est ça, exactement. Nous, c'est aussi beaucoup d'efforts de produire votre nourriture. Alors, à vous de venir nous voir, à vous de nous montrer que ce qu'on fait, c'est cohérent, que c'est juste et que vous avez envie qu'on continue à rester, en fait, les souverains et les garants de notre nourriture, quoi, aujourd'hui. Donc, ça, c'est vraiment mon fer de lance. La révolution se passera dans les assiettes, dans nos cuisines, dans nos cœurs, dans notre façon de consommer. Oui, ça veut dire qu'il faut reprendre notre cuisine et donc réapprendre à cuisiner. Oui, ça veut dire que des fois, il faut aller chez un producteur et puis après chez un autre, mais vous verrez, vous ne le regretterez pas. Oui, ça veut dire qu'il faut faire des efforts, regarder les étiquettes, aller certainement dans des restaurants qui produisent ou alors qui se servent chez des paysans, aller un peu moins au restaurant, mais mieux. Voilà, je prends vraiment le manger local, manger moins, mais mieux, le fait maison, et je vous garantis que vous ne le regretterez jamais.
Eh bien, écoutez, Kyriagé, malheureusement, j'espère qu'on pourra vous réinviter et que je pourrai vous réinviter plus longuement. Ce sera le mot de la fin, hein. Merci beaucoup. Je rappelle
Merci beaucoup de l'invitation.
que vous êtes donc agricultrice, restauratrice, hein. Vous avez monté les Champs de Gaïa et la Table de Gaïa à Montjoin en Causeran, en Ariège. Donc encore merci, hein, d'avoir accepté mon invitation et j'espère à très bientôt.
À très bientôt, merci à vous.